Nous parlons de médecins et sorciers aux empêcheurs de penser en rond, la découverte. Ma première question portera sur une note de bas de page écrite dans les suppléments à cette nouvelle édition, supplément qui reprend un colloque que vous avez donné en 2006 avec Isabelle Stengers. Vous évoquez dans cette note de bas de page la question du vocabulaire pour nommer ceux pour qui les disciplines psychologiques travaillent. Comment vous nommez-vous? Comment nommer la personne en face? Est-ce qu'elle doit s'appeler patient? Et vous évoquez alors dans cette note de bas de page les travaux remarquables de Michael Borg-Jacobson sur Freud et ses patients. Vous écrivez alors, je vous cite, « Nous savons aussi, sans peut-être en avoir tiré toutes les conséquences, que la majorité des patients suivis par Freud s'en sont portés plus mal, parfois beaucoup plus mal. » Et vous ajoutez juste après, « Le récit de K, cette figure littéraire inaugurée par Freud, devrait désormais prendre fin pour être remplacé par la prise en charge des données cliniques par les collectifs d'usagers. » Pouvez-vous nous expliquer cette dernière phrase, « Remplacé par la prise en charge des données cliniques par les collectifs d'usagers, s'il vous plaît ?»
Bon, c'est une question complexe. Hein. D'abord, le texte psychanalytique est calqué sur la parabole, en fait. Hein. C'est-à-dire, il est écrit un peu comme les évangiles, en fait, le texte psychanalytique. C'est-à-dire, vous avez des énoncés généraux et puis qui sont illustrés par un récit, et c'est un récit clinique. Ce récit clinique, on le prend pour ce qu'il est, on le commente, on le discute, exactement comme on fait des paraboles des évangiles. Et je trouve que Michael Borg-Jacobson, dans son dernier livre, enfin c'est pas son dernier d'ailleurs, c'est son avant-dernier, qui s'appelle « Les patients de Freud », a totalement bouleversé cette lecture qu'on avait des cas cliniques. Parce qu'il a fait quelque chose qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. En vérité, ça fait longtemps qu'on a commencé à le faire, hein. Mais de manière systématique, comme il l'a fait ici, personne ne l'avait jamais fait. Et c'est-à-dire qu'il a pris ces cas cliniques de Freud et il est allé chercher leur réalité concrète, leur vie. Et nous voyons tout d'un coup émerger des personnages, des vrais personnages, c'est-à-dire des gens qui sont dans une histoire sociale réelle, non pas des espèces de pantins agités par des démiurges théoriciens qui les agitent au gré de leurs souhaits théoriques, en quelque sorte, mais des gens qui ont eu une vraie vie avec des vrais intérêts. Alors je vous donne un exemple, la fameuse Annao, qui était, on le sait, Bertha Pappenheim. Vous vous souvenez certainement que dans le texte que Freud a écrit avec Breuer, c'est pas Freud qui l'a soigné à Nao, c'est Breuer. Hein. C'est assez bizarre toute cette affaire, mais toujours est-il que dans le texte qu'ils ont écrit ensemble, ils disent elle invente la talking cure, c'est-à-dire la cure par la parole, et après ça, elle est guérie. En vérité, après ça, elle fait 10 ans d'hôpital psychiatrique, quoi. Donc, elle n'est pas guérie du tout, au contraire. Et elle va se guérir elle-même par une sorte de force incroyable qu'avait cette femme qui s'appelait Bertha Pappenheim, qui deviendra une militante féministe, probablement la première militante féministe d'Autriche, reconnue pour telle d'ailleurs, puisqu'elle aura un timbre à son effigie bien plus tard. Elle sera connue pour ça, et c'est son effort, son investissement dans la vie sociale qui va la tirer de cette pathologie qu'elle présentait au moment où Breuer l'a prise en charge. Donc vous voyez apparaître un tout autre personnage, et quand on a posé la question à Bertha Pappenheim de ce qu'elle pensait qu'on avait écrit d'elle, elle ressentait un très profond dégoût pour ces paroles qui ont été écrites sur elle. C'est-à-dire, vous avez des paroles qui sont dites sur des personnes à leur insu et qui engagent leur être même, pas seulement leur existence, mais leur être même. La plupart d'ailleurs n'ont pas réagi. Hein. Bon, donc, il y a une question morale d'abord. Ensuite, il y a une autre question, c'est quelle est la véracité de ces récits de patients? Qu'est-ce qu'on peut leur accorder comme crédit, en quelque sorte. Eh bien, je pense que s'ils viennent des thérapeutes, on ne peut leur accorder aucun crédit. S'ils viennent des patients eux-mêmes, on ne peut leur accorder aucun crédit non plus. Parce que quand on pense, par exemple, au récit de Françoise Giroud, de sa psychanalyse avec Lacan, par exemple, on ne peut pas y accorder de crédit non plus. Vous imaginez combien ça lui a coûté, cette psychanalyse. Si elle disait, j'ai payé l'équivalent d'une maison de campagne et ça ne m'a rien fait, je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire une parole comme ça. Donc, et elle est obligée de dire que c'est... que ça lui a sauvé la vie, que ça a été quelque chose de fabuleux pour elle, etc. Et la plupart des personnes qu'on interroge sur leur psychanalyse personnelle en disent du bien, évidemment, puisqu'ils ont tellement investi pour ça qu'ils ne peuvent pas en dire du mal. Donc ce récit, le récit fait par le patient lui-même, n'est pas plus crédible que le récit fait par le thérapeute. Alors quel crédit et quel discours sur la cure est possible ? Et je disais, le seul discours possible, c'est le discours d'un groupe d'usagers qui prend en charge non pas l'histoire d'une personne, mais une maladie. Une maladie, c'est la maladie qui est intéressante. Alors, on se regroupe, ils se regroupent, ils se constituent en tant qu'usagers d'une pratique thérapeutique autour d'une maladie, c'est-à-dire des gens qui se sont perçus comme... ayant un TOC, par exemple, trouble obsessif compulsif, ce qu'on appelait autrefois une névrose obsessionnelle. Ces gens-là, regroupés ensemble, confrontent leurs expériences et établissent à ce moment-là des protocoles de recueil de données. Ces protocoles, ce sont les seuls qui sont fiables. Ce ne sont pas ceux des cliniciens, parce que ceux-là sont évidemment partiaux, et ce ne sont pas ceux de quelqu'un qui est devenu un prosélyte, en fait. Hein. Françoise Giroud est devenue une prosélyte de Jacques Lacan. Marie Cardinal est devenue une prosélyte de Michel de Musan. Tous ces gens-là sont devenus des prosélytes. Et ça n'a aucun intérêt d'écouter des prosélytes. On continue dans la parabole évangélique. On voudrait changer de discours. Et pour changer de discours, il faut la constitution de ces groupes d'usagers et l'établissement... de paroles conçues par ce groupe d'usagers. Voilà ce que signifie cette note de bas de page. Mais vous avez raison, elle est très importante, elle mérite un long développement.
Donc, utilisation du terme d'usager, même d'usager au pluriel, plutôt que celui de malade, plutôt que celui de patient, plutôt que celui de sujet. Et vous écrivez alors que le terme d'usager... Il contraint les personnages de la dramaturgie thérapeutique, belle expression, dramaturgie thérapeutique, elle contraint les personnages de la dramaturgie thérapeutique à des positions sociales. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire, quand vous êtes un thérapeute, vous avez des responsabilités qui ne sont pas seulement des responsabilités... vis-à-vis de votre groupe d'appartenance. Si vous voulez, je suis un thérapeute, j'ai été formé par exemple à la Société psychanalytique de Paris. La plupart du temps, je suis tellement obsédé par ma formation que je suis tout le temps en train de parler à mes maîtres, à mes pairs, et c'est à eux que je m'adresse. Quand je présente un cas clinique, c'est à eux. Je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens très bien, moi j'ai toujours fait mes consultations, j'allais dire en public, c'est pas en public, c'est-à-dire en groupe en tout cas. Toujours, c'était toujours des groupes de thérapeutes. Hein. Donc on était 10, 15 thérapeutes pour une situation. Hein. On avait l'habitude de parler devant le patient, du patient. Et il y avait une jeune psychologue qui venait d'arriver et que le chef de service avait chargé de faire passer des tests aux patients. Et voilà qu'elle fait passer ses tests et elle me donne le résultat du test. Elle fait passer un test de Rorschach aux patients. Et elle me donne le résultat du test, comme ça, en cachette, quoi, du patient. Alors je lui dis, mais non, lisez-le devant le patient. Alors elle lit ce qui est écrit, c'est incroyable, les paroles qui sont écrites sur ces gens. personnalité schizoïde, certainement trouble borderline, etc. Alors elle dit ça, c'est un homme simple, c'est en plus un migrant qui comprenait à moitié le français, quoi. Et donc je lui demande au patient, vous comprenez ce qu'elle dit ? Et il dit, bah, non. Bah, je lui dis, elle dit que vous aimez plus que vous n'aimez les gens. Alors il dit, c'est vrai, je me masturbe beaucoup, il a répondu. Mais tout d'un coup, les choses ont complètement changé, quoi. Et elle était consternée. Elle a pris conscience soudain qu'on ne pouvait pas, comme ça, parler du patient, parce qu'on a une responsabilité, c'est plus qu'une responsabilité professionnelle. C'est ce que j'appelle une responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'univers, en fait. Et on dit, je vous présente cet homme. On s'adresse à l'univers, aux forces de l'univers. Et on dit, je vous présente cet homme. Cet homme, il est ainsi. Et même si il n'y a personne qui entend, il y a des forces qui entendent. Parce que ces paroles, elles sont dites, même elles vont retomber quelque part, quelqu'un va les reprendre, des forces vont s'en saisir, et ça suivra cette personne longtemps. C'est pour ça qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur quelqu'un. On a des responsabilités. C'est de ça que je parle.
Alors, on y vient justement et on va prendre un cas précis. On va rester sur cette question qui m'intéresse du récit de cas ou de l'écriture de cas. Vous avez bien expliqué qu'il fallait vraiment procéder d'une manière différente. Dans Médecins et sorciers, il y a des cas qui sont écrits et j'aimerais qu'on aborde l'écriture de ces cas-là. Par exemple, prenons le cas de Bintou. Cette jeune fille d'origine malienne qui arrive en consultation devant votre groupe de travail. Ça prend plusieurs pages, hein, ça prend une dizaine de pages où vous explicitez son cas et la manière dont se passe la séance. Comment, du coup, vous abordez l'écriture de son cas, l'écriture du cas Bintou?
Alors, bon, ce texte est quand même un texte daté, hein. C'est-à-dire, c'était le début des récits de cas en ethnopsychiatrie, hein. Je me suis beaucoup interrogé sur ces écritures de cas, hein. C'est-à-dire, je voulais à tout prix éviter la parabole, hein. Le discours en forme de parabole. Je ne l'ai pas vraiment évité, là, hein, je dois dire. Hein. Mais en tout cas, l'effort pour l'éviter, je vais vous dire en quoi il consiste. Hein. C'est que j'ai voulu surtout mettre en avant mes interrogations, me décrire moi en tant que thérapeute plutôt que de décrire le patient en tant que patient. Me décrire moi en tant que thérapeute. Moi, dans une situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense? Et comment j'agis? Alors, je vois arriver une jeune fille qui est accusée parce qu'elle a fait, elle a eu un enfant très jeune, je crois qu'elle devait avoir 14 ou 15 ans, quand elle a eu cet enfant, elle le cache à tout le monde, elle accouche en cachette dans les toilettes, et elle jette l'enfant qui a des séquelles graves, qui ne meurt pas, mais qui a des séquelles graves, donc. Et elle est poursuivie d'ailleurs par la justice pour une tentative d'infanticide, en fait. Hein. Mais c'est une toute jeune fille, quoi. Et donc, là, je suis confronté à un problème. C'est ce problème-là que je discute dans ce cas-là. Je suis confronté à un problème. Si je parle d'elle en tant qu'elle, je ne peux que la voir face à sa culpabilité. Comment est-ce que je peux sortir de cette contrainte à la plonger dans sa culpabilité? Parce que ça ne peut pas être autre chose. Hein. Si vous commencez à parler d'elle, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, etc. Forcément, vous allez la mettre en face de remords. Et donc, c'est terminé, quoi. Je veux dire, c'est même pas la peine d'essayer d'opérer des procédures de changement. Il n'y aura aucun changement. Au mieux, elle vous enverra balader, ce qui est le mieux pour elle. Au pire, elle marchera dans ses affaires de culpabilité. Et là, vous avez fabriqué une névrose pour des dizaines d'années, quoi. C'est vous qui l'avez fabriquée. Donc, je veux sortir de ça. Pour sortir de ça, je suis obligé de m'adresser à quelque chose d'autre, pas à elle. comment je peux faire pour ne pas m'adresser à elle, pour m'adresser à des forces qui sont à côté d'elle. Et je dis que là, je suis obligé de faire de quelque chose qui ressemble à de la divination. C'est la situation elle-même qui m'y contraint. C'est pas que j'ai envie de faire le sorcier, c'est pas que j'ai envie de faire le magicien, c'est pas que son monde est habité par la magie, c'est que si je ne fais pas ça, je la contraindrai au remords. Et donc, c'était pratique parce que j'avais avec moi des thérapeutes qui savaient le faire, quoi. Et en particulier une collaboratrice sénégalaise qui savait très très bien lancer les coris, les coquillages, et donc qui se met à lancer les coquillages à ma demande, pour cette jeune fille. Et nous allons faire des énoncés non pas sur elle, mais sur les forces qui l'ont amenée jusqu'à cette situation, et on va répondre aux forces. C'est pour ça que je raconte le récit de cette manière. Ça m'a fait que des ennuis, hein, parce que tous les récits de cas, y compris ceux de Freud, sont des récits qui parlent que des patients. Très très peu du thérapeute, forcément, puisque c'est lui-même qui le raconte. Et le peu de moments où il parle, il dit « Ah ben j'ai tout compris, regardez, voici comment j'ai compris les choses ». Et c'est les seuls moments où il parle de lui-même. Alors que là, j'ai voulu au contraire tout centrer sur la procédure, à quelle procédure je vais devoir me livrer. Et j'essaye d'expliciter la fonction d'une procédure qui peut paraître étrange vue de l'extérieur, mais quand on est confronté à une nécessité clinique comme celle-ci, elle est plus étrange du tout, hein. C'est-à-dire comment sortir quelqu'un d'une sorte de destin. Eh bien, on ne peut le sortir de là qu'en interrogeant des forces qui le dominent en quelque sorte. Et c'est ça que je mets en scène, quoi. Je dis comment on fait pour faire ça. Alors évidemment, je dis il faut faire de la divination, il faut faire quelque chose qui ressemble à ça en tout cas.
Et donc pour l'écriture, continuons sur le cabinetou, on passe de l'étude de cas, du récit de cas tel qu'écrit par Freud à son époque, à une écriture de l'étude des procédures. C'est ça. Et ça, c'est très important pour l'ethnopsychiatrie, ce passage du cas à la procédure.
Oui, alors j'ai essayé de le montrer de la manière la plus naturelle, je veux dire la plus simple, quoi. J'ai raconté comment je procède, exactement comment je procède, c'est-à-dire on voit bien dans quelle contradiction je me trouve, quels sont mes outils. Mes outils, c'est que je ne suis pas tout seul, qu'il y a d'autres thérapeutes avec moi, que je peux me référer à eux, je peux leur poser des questions, leur dire qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, est-ce que tu crois que je devrais intervenir d'une autre manière. Et tout ça, c'est toujours devant le patient. Moi, je n'ai jamais utilisé ni de glace sans teint, ni de choses des gens qui se retirent pour discuter entre eux. Tout est public, hein, c'est devant le patient. Et le patient est un des interlocuteurs de la dramaturgie thérapeutique dont on parlait tout à l'heure. C'est un interlocuteur important même, puisque c'est pas de lui qu'il s'agit. C'est de la situation qu'il s'agit. C'est du désordre qu'il s'agit. Lui est aussi un témoin du désordre. Il en est une victime, mais il est aussi un témoin. Et donc, il fait partie de la discussion. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je compte agir de cette manière. Est-ce que tu es d'accord pour que j'agisse comme ça? Oui, d'accord. Essaye, on verra bien. Je te dirai à partir du résultat. Et on travaille à partir de cette façon de faire. Oui, je considère que c'est très important pour l'ethnopsychiatrie parce que c'est l'application aussi d'un élément théorique fondamental de l'ethnopsychiatrie. C'est que l'ethnopsychiatrie, en tout cas celle que j'ai développée, est arrivée au constat qu'au fond, il n'y a pas de maladie mentale. Il n'y a que des thérapeutes. Il n'y a que des thérapeutes. Comme il n'y a pas de maladie psychiatrique, il n'y a que des médicaments psychiatriques. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi j'ai vu, hein, j'ai assisté, hein, j'ai vu mes premiers patients au tout début des années 70. Hein, à ce moment-là, le mot dépression n'existait pas. Vous vous rendez compte? C'est quand même le mot le plus courant aujourd'hui pour décrire un désordre psychologique. J'ai une dépression, quoi. Ce mot n'existait pas. C'est-à-dire, quand on décrivait quelqu'un qui avait une maladie de la tristesse, quoi, on disait mélancolique, et c'était une maladie très grave, et, ou bien on disait neurasthénique, c'était un peu moins grave, quoi. Mais dépression, ça n'existait pas. Et c'est arrivé comme une tornade, comme ça, et ça emportait tout le monde. Mais en fait, c'est pas la dépression qui est arrivée, ce sont les antidépresseurs qui sont arrivés. Les antidépresseurs sont arrivés avant la dépression. Et au fond, c'est ce constat, je suis pas le seul à le faire, hein. La plupart des épistémologues, des philosophes des sciences qui travaillent aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, sur les troubles psychiatriques, disent la même chose, hein. Ils disent, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des médicaments, en fait, hein. Et donc, moi, l'ethnopsychiatrie que j'ai promue part du principe qu'il n'y a pas de pathologie mentale. Il n'y a que des thérapeutes. Et la pathologie s'adapte à la façon dont on va la prendre en charge, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent et qui demandent de l'aide. Mais les entités qu'on appelle maladie, qui d'ailleurs ont toutes disparu, hein, pour la plupart, hein. Pardonnez-moi de faire ancien combattant, hein, mais je peux vous dire que quand moi j'ai étudié la psychiatrie, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, 45 ans bientôt, il y avait peut-être 100 noms, 100 mots pour désigner les pathologies psychotiques, par exemple. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est passé de 100 à 1. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul médicament. Un médicament, donc une pathologie. Avant, il n'y avait aucun médicament, donc il y avait 100 mots. Et c'est, je veux dire, c'est, pour moi, c'est absolu, c'est évident. C'est pour ça que la psychopathologie, bien sûr qu'elle relève de la médecine, mais pas tout à fait de la même manière que les autres pathologies, en fait, hein. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et donc, il est très important de décrire des situations à partir des procédures des thérapeutes plutôt que de les décrire à partir des souffrances des patients. Parce que les souffrances des patients sont informées au sens kantien du mot. C'est-à-dire qu'elles prennent la forme des procédures qui les prennent en charge, en fait.
Et alors, découle de ce que vous venez de dire, le fait que l'ethnopsychiatrie, deviendrait nécessairement une discipline psychologique qui serait appelée à solutionner quasiment tous les problèmes psychologiques. Elle devrait prendre... en fait, vous terminez votre livre en affirmant que cette nouvelle manière de travailler des ethnopsychiatres sera nécessairement celle de tout psy.
D'abord, pardonnez-moi de m'opposer à vous. Ethnopsychiatre, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'ethnopsychiatre. Hein. Parce que ethnopsychiatrie, ce n'est pas un métier. Donc on ne peut pas dire ethnopsychiatre, parce qu'après, ils vont dire c'est comme un psychiatre, c'est un ethnopsychiatre. Ce n'est pas vrai, quoi, je veux dire. Et ethnopsychiatrie, c'est une profession de foi qui dit que même les groupes les moins savants, ça veut rien dire, mais je veux dire qui sont le moins dans la pensée savante, quoi, ont quand même une psychiatrie, une façon de traiter leur désordre, en fait, hein. C'est ça que ça veut dire ethnopsychiatrie. C'est une profession de foi qui dit que même les pauvres sont riches, en fait. C'est l'énoncé. Donc ethnopsychiatrie, c'est une discipline, c'est une façon d'être, une façon de faire. C'est pas un métier, quoi. Donc je peux pas dire les ethnopsychiatres. Ce que vous dites est d'autant plus vrai, ce que vous disiez tout à l'heure est d'autant plus vrai que j'irai même plus loin aujourd'hui, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait de plus en plus, on s'en doutait, hein, mais on sait de plus en plus que toutes ces thérapies par la parole sont pour le moins sans effet, mais peut-être même nocive pour certaines pathologies. On sait par ailleurs que tous les médicaments, les psychotropes, ne soignent rien. Jamais personne n'a guéri de quoi que ce soit avec un médicament psychotrope. Ils apaisent, ils apaisent l'angoisse de manière provisoire. Ils font office de camisole chimique, comme on disait autrefois. C'est vrai, et souvent on en a besoin, mais on ne peut pas dire qu'ils guérissent. Et en fait, une fois qu'on a vu que ces deux façons de faire auxquelles on accordait tant d'importance naguère sont très peu efficaces en vérité, qu'est-ce qui reste sinon ces mécanismes qui sont des mécanismes extrêmement puissants, qui sont des mécanismes au fond d'appartenance en fait. Hein. C'est-à-dire quand avec Bintou, je lui dis, c'est pas moi qui lui dis au fond, ce sont les coquillages qui disent vous avez été traité comme une sorcière depuis votre enfance et que c'est ça dont il faut s'occuper. Et je sais comment on peut faire pour s'en occuper, et je peux même vous faire une prescription pour ça. Quand je dis une chose pareille, en fait, je la réaffilie à son identité bambara, en quelque sorte. C'est ça que je fais. Et que ce mécanisme-là est peut-être le plus puissant de tous les mécanismes thérapeutiques que nous connaissons. Donc, pour le mobiliser, je vois guère que ces méthodes que j'ai mis en valeur, qui font partie de ce qu'on appelle, il est convenu d'appeler ethnopsychiatrie, mais c'est un très mauvais mot, hein, ethnopsychiatrie.
Et alors, j'ai envie de dire, et alors pour l'homme moderne, pour l'homme moderne occidental, pour l'homme moderne au sens de Bruno Latour, faut vraiment quitter dans ces cas-là le sens d'ethnopsychiatrie, parce que ce que vous faites peut avoir aussi un sens de résoudre ces problèmes psychologiques à l'homme moderne.
Oui, mais bien entendu, je veux dire, c'est une discipline totalement moderne. C'est pas du tout une discipline qui va chercher des choses anciennes. Je veux dire, c'est pas une remise. Une remise en valeur de médecine traditionnelle, c'est pas ça l'ethnopsychiatrie, c'est au contraire, c'est aller regarder où sont les groupes, par quel mécanisme ils affilient leurs membres, et voir comment on peut faire appel à ces mécanismes d'affiliation des groupes. Mais des groupes, il y en a tout le temps, et il y en a même des nouveaux qui se créent tous les jours. Je vais vous donner un tout petit exemple. Hein. J'étais en poste au Burundi, une dizaine d'années après les massacres qui ont eu lieu au Burundi. J'étais très frappé, parce que vous savez, il y avait les Hutus, les Tutsis, etc. On a commencé à dire, oui, c'est une guerre ethnique, c'est un massacre ethnique, etc. Peut-être, mais en fait, il n'y avait pas d'ethnie au Burundi. Parce qu'une ethnie, c'est un groupe qui a une langue, qui a des dieux et qui a un territoire. Or, les Hutus et les Tutsis, ils ont la même langue, les mêmes dieux et ils vivent dans le même territoire. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire que ce sont des ethnies. Et d'ailleurs, ils se mariaient ensemble la plupart du temps. Donc, évidemment que ce n'étaient pas des ethnies. Mais aujourd'hui, ça l'est devenu. C'est la guerre qui a fabriqué les ethnies. C'est-à-dire ces guerres qu'on est en train de voir aujourd'hui et qu'on comprend si mal qui ont lieu en Afrique, et dont la première, la plus violente d'ailleurs, a été celle-là, celle qui s'est passée entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda et au Burundi. Eh bien, cette guerre a fabriqué des ethnies. C'est-à-dire qu'on a vu naître des groupes nouveaux, et il en est tous les jours des groupes nouveaux. C'est donc pas quelque chose qui parle du passé, c'est quelque chose qui parle d'aujourd'hui, de la naissance et du fonctionnement des groupes aujourd'hui même. Alors, quand vous me dites l'homme moderne, vous avez dans la tête le Parisien ou l'habitant d'Orléans, mais je vous dis que ces gens-là sont encore plus attirés par leur groupe, précisément parce que les grands amalgames agglutineurs, on va dire, sont en train de disparaître, quoi. Et ils sont plus... Je les ai vus fonctionner, par exemple, en Afrique. Vous voyez, vous avez... au Congo, par exemple, vous avez 200 ethnies. Plus que ça, même. Autant de langues, autant de territoires, autant de divinités, autant de fétiches différents, quoi. Et donc, interdiction de se marier, évidemment, d'une ethnie à une autre. Et puis, vous avez les grandes villes. Vous avez Kinshasa, vous avez de Brazzaville, vous avez des énormes métropoles où tout le monde est mélangé, bien entendu. Comment ils font pour se marier ? Eh bien, ils se réfèrent à quelque chose qui les englobe, en quelque sorte. Et cette chose qui les englobe, souvent, c'est le christianisme, en fait. Donc, je suis peut-être, moi, Vili, et elle est Munukutuba, par exemple, mais nous sommes tous les deux membres de la même église évangélique, et donc nous pouvons nous marier ensemble. Donc, il y a des grands, des englobeurs, comme ça. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique, d'ailleurs, l'extrême force de ces églises, il y a, je sais pas, des centaines d'obédiences aujourd'hui en Afrique, de ces églises évangéliques. Mais dans notre monde à nous, tous ces englobeurs ont disparu. Le christianisme ne fonctionne plus comme englobeur, la nation ne fonctionne plus comme englobeur, l'Europe ne peut pas fonctionner comme un englobeur, c'est pas possible. Je veux dire, c'est vachement bien l'Europe, mais on ne peut pas être un militant européen, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas, ça, vous embarquez pas des jeunes autour d'une idée pareille, quoi. Donc tout ça, ça a disparu. Qu'est-ce qui reste ? Ben, les appartenances, les petites appartenances, qui sont des appartenances locales fortes et qui sont encore plus fortes aujourd'hui qu'autrefois. Vous savez, ça m'a... Je vous dirais les choses comme ça. Ça demande réflexion, tout ça. Vous me prenez un peu de cours. Mais vous savez, c'était Mallory. On discutait ensemble sur toutes ces affaires. Il disait, il faut faire attention. On confond souvent civilisation et culture. Les civilisations sont mortelles. Les cultures, beaucoup moins. C'est-à-dire que les civilisations englobent des cultures. On a l'impression que les cultures ont disparu, comme ça. Et puis les civilisations s'effondrent très très vite, hein, du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui ressort ? Les cultures qui avaient été apparemment, qui avaient été comme absorbées comme ça, et elles ressortent. Et en France, c'est ce qu'on voit aujourd'hui même, hein. Et donc les hommes modernes dont vous parlez, outre des tas de nouveaux êtres qui naissent, et auxquels, évidemment, avec lesquels ils ont des relations très fortes aussi, hein. Ils n'ont pas oublié les anciens, et ils sont en train de rechercher les moyens d'entrer en relation avec eux à nouveau. Alors, je sais pas, puisqu'on parlait des nouveaux êtres qui apparaissent, vous en parliez tout au début, hein. Ce sont les maladies, par exemple, ces êtres-là. Moi, j'étais très frappé par une maladie qui a été un événement, à mon sens, un événement crucial. C'est la maladie de Gilles de la Tourette, qui était, parce qu'elle est tellement spécifique, quoi, qu'on pouvait pas. Moi, j'ai connu un temps où on faisait des psychanalyses de gens qui avaient une maladie de Gilles de la Tourette, hein. Et on disait, oui, c'est une ancienne névrose obsessionnelle qui s'est enquistée, enfin, etc. Les psychanalystes disaient ça, hein. Et donc, on essaye, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. C'est, évidemment, c'est pas possible. C'est une nature, quoi. C'est comme une divinité. Et c'est quelque chose qui est plus fort que les êtres humains. Et les êtres humains qui relèvent de cette nature doivent se soumettre un certain comportement. S'ils se soumettent à ce comportement, alors la vie est possible pour eux. Mais il faut qu'ils arrivent à le connaître, il faut qu'ils arrivent à connaître les obligations auxquelles les contraignent leur patron, en fait, qui est cette maladie de Gilles de la Tourette, si vous voulez. Eh bien, ces nouveaux êtres qui apparaissent dont on prend connaissance, qu'on arrive à nouveau à identifier, eh bien, ce seront ceux-là à partir desquels on pourra soigner les gens. C'est-à-dire, on ne dira pas aux gens « vous êtes malade », on dira « vous êtes un adepte d'une divinité qui s'appelle Maladie de Gilles de la Tourette, par conséquent, vous devez vous comporter selon les règles que dicte cette divinité, à ce moment-là, ça ira bien pour vous. » C'est d'ailleurs ce qu'ils font, hein, je vous dis, hein, ceux qui ont une maladie de Gilles de la Tourette. Hein.
Mais alors, est-ce que le terme en usage, celui d'ethnopsychiatrie, est mal choisi alors ?
Oui, bien sûr. Non, ce terme est très mal choisi, mais moi je l'ai gardé pour deux raisons. D'abord parce qu'il emmerde tout le monde, et ça me plaît bien, parce que c'est un terme conflictuel, quoi. Non, je veux dire, parce que c'est un terme conflictuel et qui montre que c'est pas une discipline facile. C'est une discipline qui pose problème et aux ethnologues et aux psychiatres et au reste des sciences humaines. Et c'est comme ça qu'elle a un intérêt. C'est quand elle pose problème. À partir du moment où elle ne pose plus problème, c'est fini, on n'en a plus besoin. Hein. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ethnopsychiatrie, ça avait un sens très précis au début, à l'époque. C'est que c'est né en même temps que ethnomédecine, ethnobotanique, ethnomusicologie, ethnopharmacologie. Ça veut dire des peuples sans pensée savante, explicite, mise en forme, écrite en quelque sorte, sans académie, sans revue à comité de lecture, sans machin, etc., ont quand même une science, et cette science-là mérite d'être étudiée, et même, on peut même s'y initier à cette science-là. Ça vaut le coup d'apprendre des sciences qui n'appartiennent pas à notre académie des sciences, en quelque sorte. C'est ça que ça voulait dire, ethnopsychiatrie. Et ça garde encore cette force, je trouve. C'est pour ça que je n'ai pas changé le mot, quoi. J'aurais pu changer le mot.
Et vous n'avez pas de volonté actuellement de changer le terme ?
Bah sûrement pas. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Je veux dire, il y a plein de praticiens qui se sont occupés des mêmes choses que moi et qui se sont trouvés gênés par cette tension subversive qui est dans le mot et qui ont glissé. Par exemple, ils font de la psychiatrie transculturelle. C'est tout le contraire de l'ethnopsychiatrie, la psychiatrie transculturelle. C'est-à-dire, la psychiatrie transculturelle, c'est je fais de la psychiatrie, c'est-à-dire j'applique les concepts de la psychiatrie y compris à des gens qui n'appartiennent pas à ma culture. Mais ça ne m'intéresse absolument pas, ça, moi. Moi, je veux justement que les gens qui n'appartiennent pas à ma culture viennent fracasser mes concepts. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des concepts que j'irai appliquer dans des cultures différentes. Je veux que les gens qui viennent d'ailleurs viennent casser ma pensée, quoi. Et ça s'appelle ethnopsychiatrie. Il y en a d'autres qui ont appelé ça ethnopsychanalyse. Ethnopsychanalyse, ça veut rien dire, quoi. Même mon maître, à la fin de sa vie, commençait à parler d'ethnopsychanalyse en disant que c'est la psychanalyse contient toute la théorie de l'ethnopsychiatrie, mais pas du tout. C'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens. Il a perdu l'intuition originelle. Quand il fait ça, il a perdu l'intuition qui est... vous savez que ça vient d'un spécialiste du vaudou, ethnopsychiatrien, hein. Le mot ethnopsychiatrie, il vient d'un psychiatre haïtien qui s'appelait Louis Mars et qui a été ses premiers travaux dans les années 30 en fait, hein, que Devreux a bien connu d'ailleurs, il lui a emprunté le mot ethnopsychiatrie, qui regardant, c'était le premier psychiatre haïtien, regardant les patients haïtiens et voyant qu'ils allaient où ? Ils allaient au péristyle, ils allaient faire des rituels vaudous. Et ils s'en trouvaient très bien à l'issue des rituels vaudous. Et lui, il avait étudié la psychiatrie. Et il disait, on ne peut pas faire de la psychiatrie sans tenir compte du fait que les gens vont se soigner dans les rituels vaudous. Ici, dans ce pays, en Haïti, il faut faire de l'ethnopsychiatrie. C'est ça que disait Louis Mars. Et c'est ça l'intuition originale. C'est le vaudou, c'est pas que une thérapie, mais c'est aussi une thérapie. C'est aussi une religion, c'est aussi une fête... C'est aussi une façon d'agresser les gens aussi, hein. Je veux dire, c'est aussi de la sorcellerie, le vaudou, c'est tout ça, hein. Mais c'est aussi une thérapie. Et on ne peut pas faire de la psychiatrie, disait-il, en Haïti, sans tenir compte qu'il existe déjà une psychiatrie. Et ça, c'est de l'ethnopsychiatrie, c'est partir de ce constat-là. Donc ce qu'on voit vient fracasser nos certitudes.
Et d'ailleurs, vous avez cette belle phrase à propos de votre maître, Georges de Vereux. Vous dites « introduire le contradictoire là où régnait la parole du maître ».
Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que je veux dire, c'est pas seulement sur ça que je dis ça. Hein. C'est que regardez, c'est l'aboutissement de l'ethnopsychiatrie aujourd'hui. Hein. C'est que dans l'espace psychothérapique, il y a pas du tout de contradictoire possible. Vous êtes, imaginez une séance de psychanalyse. Vous êtes vous et votre psychanalyse. Je connais très bien, hein, moi j'ai fait 3 psychanalyses. Hein. Donc, j'étais formé à la Société psychanalytique de Paris, je connais parfaitement le fonctionnement du dispositif, hein, que j'ai pratiqué moi-même. Hein. Et donc vous avez un espace où vous avez une personne qui pense des choses sur vous, vous le patient, supposons que vous êtes le patient, il y a quelqu'un qui pense des choses sur vous et vous ne pouvez même pas émettre la moindre critique de ça. Comment c'est possible dans une société démocratique et transparente de laisser exister un espace où aucune contradiction n'est possible, c'est même pas pour qu'il y ait de la critique, mais pour dire mais qu'est-ce que tu as pensé exactement, qu'est-ce qui t'a fait penser ça, mais est-ce que tu es bien informé, etc. Enfin, je veux dire, un autre exemple très rapide. Vous lisez, pour reprendre ce qu'on disait au début, si vous lisez les cas cliniques de Freud. Il y a un cas célèbre qui est particulièrement intéressant d'ailleurs, hein, qui s'appelle l'homme au loup. L'homme au loup est russe. Il parle mal l'allemand. Quelle langue parle-t-il avec Freud ? Évidemment qu'il parle allemand. À aucun moment, Freud ne dit « Mais comment il l'aurait dit en russe ? Comment ça se passe dans sa tête ? Est-ce que le rêve des loups, il s'est passé en russe ou il s'est passé en allemand ? Comment il a pensé les choses ?» Et personne ne peut venir dire à Freud « Attention, est-ce que tu as pensé les choses à partir du fait qu'il est russe et que quelqu'un qui est russe, quand il voit des loups, c'est peut-être pas la même chose qu'un bourgeois viennois qui voit des loups, quoi. Je veux dire, bon. Voilà, mais il n'y a aucune critique possible. Donc, il est indispensable de réintroduire le contradictoire. Réintroduire le contradictoire, ça veut dire qu'il y ait plus d'une personne dans l'espace de la séance. Et ça c'est vraiment ce que m'a enseigné l'ethnopsychiatrie, puisque moi, j'étais obligé de faire rentrer des gens à cause des langues, quoi. Parce que, bon, je veux dire, vous recevez un Douala du Cameroun, il parle français un peu, parfois bien même, mais quand il veut dire des choses profondes, tout ça, bah, peut-être bien que sa langue est présente, quoi. D'une manière ou d'une autre, sa langue est présente. Donc il vous faut quelqu'un qui parle la langue. C'est pas vous, vous pouvez pas parler toutes les langues. Et même si vous les parlez, c'est pas pareil, il faut identifier cette langue. Donc, qui vient et qui dit, bah voilà, et cette langue est présente, quoi. J'ai encore le temps de vous dire juste un exemple. Hein. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Ça, c'est un cas d'ailleurs qui m'a obsédé, qui est revenu souvent. J'en ai parlé dans plusieurs de mes textes parce que ce cas m'a pris la tête, quoi. C'était un homme, un mandingue de Casamance, sénégalais, donc un homme âgé, hein, âgé. Il avait 55 ans, quoi. C'était un homme mûr, quoi. Mais quelqu'un, vraiment. D'ailleurs, il avait 12 enfants, enfin, etc. Son métier, c'était colleur d'affiches. Donc, il est tombé de l'échafaudage. Et quand... après, il avait une dépression, entre guillemets. Et donc, le psychiatre l'interroge. Il dit, mais je suis pas tombé, hein. On m'a fait tomber, hein. Mais qui vous a fait tomber ? Mais les diables. Comment ça, les diables ? Il dit, ils sont venus en face de moi, et ils sont apparus devant moi, comme ça, je suis tombé en arrière. Et je ne remonterai pas, parce qu'ils veulent me tuer. Ah bon, mais pourquoi ? Il dit, parce que je sais ça. Et donc, je reçois cet homme, et il me raconte la même histoire, que les diables sont apparus, l'ont fait tomber. Tu sais d'où ils viennent? Oui, je sais qui me les envoie. Qui te les envoie? Ben, c'est le marabout de mon village, qui était l'associé de mon père. Mon père lui a pas donné ce qu'il devait, et il se sert sur les enfants. Donc il mange les enfants en compensation de ce que lui doit mon père. Et il en a déjà mangé 7. Nous sommes 12 garçons. Je suis le 8e, c'est moi le suivant. Je sais que c'est moi le suivant, donc je sais ce qui m'arrive. Alors, je pose la question. Tout ça, c'est en mandingue. Et j'ai un interprète qui était un jeune homme, qui était un étudiant. Souvent, c'était les étudiants, c'était à la fac, hein, donc je cherchais un étudiant qui parlait la langue, tout ça. Donc, c'était un étudiant. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de... Il était très impressionné, d'ailleurs, par toute cette affaire. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire monsieur? Et là, il dit, ouais, c'est fréquent chez nous. Je dis, quoi, qu'est-ce qui est fréquent chez vous? Alors, il ne savait pas me répondre, mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est fréquent qu'on dise ça chez nous, ou c'est fréquent que quelqu'un qui n'a pas été payé se mette à manger la descendance de l'autre et que ces gens-là meurent les uns derrière les autres? C'est les deux qui sont fréquents, bien sûr. Mais ça n'est possible que si vous avez un tiers qui vienne témoigner de l'existence de ce monde et qui dise qu'il est réel, qu'il est matériel et qu'il est réel, que c'est pas un fantasme, c'est pas un fantasme du bonhomme là. Et là, tout le problème est de votre côté. Parce qu'il dit, il m'a dit d'ailleurs, est-ce que tu sais faire quelque chose pour arrêter le marabout de mon village? Sinon, c'est pas la peine que je te consulte. Hein. Voilà.
Merci beaucoup, Toby Nathan.
Ben, je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ainsi. Merci.
L'émission de littérature, Radio Campus Orléans. Karl, il nous reste 13 petites minutes pour s'écouter de la musique en relation avec l'ethnopsychiatrie.
Nous allons nous intéresser à l'ethnomusicologie dans un but psychiatrique, pour commencer. Là, en fond musical, nous avons un petit rite chamanique qui nous vient plutôt de l'Amérindien, à peu près. Il faut savoir donc que dans les sociétés occidentales, en fait, tous les rites chamaniques de possession, de sacré, d'exorcisme ont disparu. Oui, et donc là, on est sur donc une proposition musicale internationale. Il y a une très bonne compile d'ailleurs à ce sujet qui a été faite, qui s'appelait Chaman et possédé. On va en passer plusieurs extraits. Et notamment cette séance d'exorcisme qui nous vient du Baloutchistan. On reprendra la parole après. C'est enjoué, Karl, cette séance d'exorcisme au Baloutchistan. Effectivement, c'est très enjoué, folklorique, mais voilà, on n'imagine pas forcément ça dans les chants de possession. Il y a des choses très très folkloriques. Ici au Vietnam, pour cet exemple-ci, on va être plus dans une thématique, voilà, un peu plus. Jugez vous-même.
Vietnam.
Cảnh một đoá nghi nghi gió lại nghi mảnh hương xạ y ngát thoảng đưa nghi Nguyệt điện tiên ni xưa có chồng Nguyệt điện tiên ni xưa nghi nghi Lành bên ni kim quyết ni phận ưa y chốn Nam Thành
C'était un chant de possession au Vietnam. Karl, peux-tu nous parler de cette relation entre la musique et la transe ?
On a un magnifique livre de Gilbert Rouget, La musique et la transe, qui s'intéresse justement à décortiquer l'utilisation des chants, des danses, aussi des musiques percussives dans la résolution de divers problèmes de société. Hein. Quand on va voir le chaman, c'est parce qu'on a peut-être un enfant qui est déficient mentalement, on s'en rend pas compte, on veut le déposséder. C'est peut-être aussi parce qu'on a d'autres problèmes plus bénins, mais la transe amène vraiment beaucoup de résolutions de problèmes dans ces sociétés tribales, voire pas tribales du tout. Avec l'interview de Toby Nathan, on se rend compte que aux portes de Paris, il y a besoin aussi parfois d'utiliser des différents moyens d'analyse psychiatrique. Et
dans les rêves parties, on parlait de trance également. Il y a la musique trance, ouais. Mais effectivement, avec notamment l'usage de drogue ou même sans usage de drogue, cette musique lancinante et rythmée qui dure comme ça toute la nuit, sur laquelle on danse, effectivement, il y avait aussi des phénomènes de trance. Alors sans peut-être cette catégorie, on va dire, médical, sans cet aspect-là.
Tu finis ta semaine, tu passes ton
week-end. C'était ça aussi. Effectivement, finalement, on y est assez proche, c'est-à-dire on finit sa semaine, on a fini de travailler et on se défoule, on se déconnecte par une sorte de phénomène aussi de transe dans les rêves parties.
Donc voilà pour ces sociétés un peu éparses à travers la planète, il y a bien évidemment des musiques dans tous les pays du monde. Le livre de Gilbert Rouget est vraiment passionnant sur le sujet de la transe notamment. Et puis après, pour ce qui est de l'ethnomusicologie, je vous invite à découvrir ça sur des on peut parler du Smithsonian Folkways Institute aux États-Unis, qui recense une quantité d'enregistrements d'ethnomusicologie. Et il y a notamment de belles parties réservées aux chamans, à la musique de possession. Nous, on va passer à autre chose dès maintenant. On va s'intéresser à la musique, en fait, qui aide à résoudre des problèmes psychiatriques dans nos sociétés actuellement.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis notamment. On va passer un extrait d'un album, d'un programme même, on pourrait dire, qui a été initié en 76 aux États-Unis par Eddie Tillman Boxhill, un psychiatre et puis une équipe certainement d'intervenants, autour d'handicapés lourds, en les réunissant autour de la création de morceaux de musique ou la réinterprétation de classiques. Forcément super intéressant. Il y a toute une démarche médicale que je vais pas vous retranscrire là parce que bien évidemment il y a plusieurs buts, hein. On améliore la cohésion de groupe, on améliore aussi le fait de pouvoir jouer d'un instrument ensemble au même moment, sur le même temps, enfin il y a la socialisation, il y a vraiment plein de projets et on peut mine de rien lier ça à la psychiatrie et à la façon de résoudre peut-être des problèmes psychiatriques. Donc on écoute un extrait de cet album. Hop, ça s'intitule Day by Day et Edith Hillman Boxhill, c'est la dame qui a coordonné tout ça. Allez.
You know that day by day.
En même temps émouvant. Largement. Parce qu'il y a un problème de synchronicité, bien entendu, mais on sent. Ça produit de l'émotion.
Clairement.
C'est intéressant à écouter.
Et là où ça devient super intéressant, c'est quand on aligne en fait la création en studio, on va dire, ou dans une salle quelconque, à la production live.
Et on arrive en Allemagne.
Ouais, en Allemagne, avec un projet similaire, mais un peu plus pop dans l'attitude. C'était celui de Station 17, à Hambourg, je crois, qui propose pareil une sorte de cohésion, de handicap lourd, création musicale. Là, on va s'écouter un live qui est assez récent, 2010, de ce groupe qui fait des albums depuis les années 90, en fait. Station 17.
Et nous terminerons l'émission là-dessus.
Avec ça, rendez-vous le mois prochain.
Ciao.